Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Isabelle se tut et but un peu de thé. Puis elle se leva, me demanda de lui mettre son chapeau et un grand châle que j'avais apporté, et sourde à ma prière de rester encore une heure, monta sur une chaise, baisa les portraits d'Edgar et de Catherine, m'embrassa à mon tour et descendit prendre la voiture accompagnée de Fanny, qui aboyait de joie d'avoir retrouvé sa maîtresse. Elle partit donc, ainsi chassée, pour ne plus jamais revenir dans le pays. Mais une correspondance régulière s'établit entre elle et mon maître quand les choses se furent un peu arrangées. Je crois qu'elle avait choisi sa nouvelle demeure dans le sud, près de Londres. C'est là qu'elle mit au monde un fils, quelques mois après sa fuite. Il reçut le prénom de Linton. Et dès le début, elle le dépeignit comme une créature maladive et irritable. Monsieur Heathcliff, me rencontrant un jour dans le village, me demanda où elle habitait. Je refusai de le lui dire. Il répliqua que cela lui importait peu, mais qu'elle devait se garder de venir chez son frère. Il ne fallait pas qu'elle vécût avec lui, dût-il, pour l'en empêcher, la reprendre lui-même. Bien que je n'eusse voulu lui donner aucune indication, il découvrit par quelque autre domestique le lieu de son séjour et l'existence de l'enfant. Il n'inquiéta pourtant pas Isabelle. Ce dont elle put rendre grâce, je suppose, à l'aversion qu'elle lui inspirait. Il s'informait souvent de l'enfant quand il me voyait. En apprenant son nom, il eut un vilain sourire et dit « Ils veulent donc que je le haïsse aussi, sans doute. Je ne crois pas qu'ils désirent que vous sachiez rien de lui, répliquai-je. Mais je l'aurai, quand j'aurai besoin de lui, ils peuvent y compter. Heureusement, sa mère mourut avant que ce moment fût venu. 13 ans environ après Catherine. Le petit Linton avait 12 ans ou un peu plus. Le lendemain de la visite inopinée d'Isabelle, je n'eus pas l'occasion de parler à mon maître. Il évita toute conversation et n'était en état de rien discuter. Quand je pus me faire écouter, je vis qu'il était bien aise que sa sœur eût quitté son mari, qu'il détestait, avec une intensité que la douceur de sa nature semblait à peine permettre. Son aversion était si profonde et si vivace qu'il s'abstenait d'aller partout où il aurait pu rencontrer Heathcliff ou entendre parler de lui. Le chagrin, joint à ce sentiment, fit de lui un parfait ermite. Il abandonna sa charge de magistrat, cessa même de paraître à l'église, évita en toutes occasions le village et mena une vie de complète reclusion dans l'enceinte de son parc et de ses terres. La seule variété qu'il y apporta consistait en promenades solitaires dans les Landes et en visite à la tombe de sa femme, la plupart du temps le soir ou le matin, de bonne heure, avant que personne fût dehors. Mais il était trop bon pour être longtemps tout à fait malheureux. Il ne priait pas, lui, pour que l'âme de Catherine ne le hantât. Le temps lui apporta la résignation et une mélancolie plus douce que la joie vulgaire. Il entourait sa mémoire d'un amour ardent et tendre, d'aspirations pleines d'espoir vers un monde meilleur, où il ne doutait pas qu'elle ne fût allée. Il eut aussi une consolation et des affections sur cette terre. Pendant quelques jours, vous ai-je dit, il parut n'accorder aucune attention à l'être chétif que sa femme lui avait légué. Cette indifférence fondit aussi vite que la neige en avril. Et avant que la petite créature fût capable de bégayer un mot ou de hasarder un pas, elle régnait en despote dans le cœur de son père. Elle s'appelait Catherine, mais il ne lui donnait jamais son nom en entier. De même qu'il n'avait au contraire jamais abrégé celui de la première Catherine, sans doute parce que Heathcliff avait l'habitude de le faire. La petite fille fut toujours Cathy, ce qui la distinguait pour lui de sa mère tout en la reliant à elle. Et son attachement à l'enfant naquit de ce lien avec la mère, bien plus que du fait qu'elle était sa fille, à lui. Je faisais parfois une comparaison entre Hindley, Earnshaw et lui, et je n'arrivais pas à m'expliquer d'une façon satisfaisante pourquoi leur conduite, en des circonstances semblables, était si différente. Tous deux avaient été de tendres époux, et tous deux étaient attachés à leur enfant. Je ne comprenais pas comment tous deux n'avaient pas suivi la même route dans le bien ou dans le mal. Mais, disais-je, Hindley, avec une tête en apparence plus forte, s'est montré pitoyablement inférieur et plus faible. Quand son vaisseau a touché l'écueil, le capitaine a abandonné son poste, et l'équipage, au lieu de chercher à sauver le navire, s'est livré à l'indiscipline et au désordre, détruisant tout espoir de renflouer la malheureuse épave. Linton, au contraire, a fait preuve du vrai courage, d'une âme loyale et fidèle. Il a eu confiance en Dieu, et Dieu l'a consolé. L'un espérait, l'autre désespérait. Ils ont choisi chacun leur sort et ont été justement condamnés à le subir. Mais vous n'avez pas besoin de ma morale, monsieur Lockwood. Vous êtes capable de juger aussi bien que moi de toutes ces choses. Vous le croyez du moins, ce qui revient au même. La fin d'Earnshaw fut ce qu'on pouvait attendre. Elle suivit de près celle de sa sœur. 6 mois à peine séparèrent l'une de l'autre. Nous autres à la grange, nous n'avons jamais su exactement quel a été son état pendant cette période. Le peu que j'ai appris est venu à ma connaissance quand je suis allé aider aux préparatifs des obsèques. Monsieur Kenneth vint annoncer l'événement à mon maître. « Eh bien, Nelly, dit-il, en entrant à cheval dans la cour un matin, trop tôt, pour que je ne fusse pas alarmé par un soudain pressentiment de mauvaises nouvelles. C'est à votre tour et au mien d'être en deuil à présent. Devinez qui nous a faussé compagnie cette fois ?
Qui ?
Demandai-je tout ému. Allons, devinez, répondit-il, en mettant pied à terre et attachant les rênes à un crochet près de la porte. Et préparez le coin de votre tablier. Je suis certain que vous allez en avoir besoin. « Pas Monsieur Heathcliff, bien sûr, m'écriai-je.
Quoi ? Vous auriez des larmes pour lui ?
Non, Heathcliff est un gaillard jeune et vigoureux, il a l'air plus florissant que jamais aujourd'hui, je viens de le voir. Il reprend vite des chairs, depuis qu'il est débarrassé de sa moitié.
Qui est-ce alors, Monsieur Kenneth ? Répétai-je avec impatience.
Hindley Earnshaw, votre vieil ami Hindley, et mon méchant compère. Quoique depuis longtemps il soit devenu trop fantasque pour moi.
Là, je disais bien qu'il allait y avoir des larmes.
Mais consolez-vous, il est mort fidèle à son personnage, ivre comme un lord. Pauvre garçon, j'ai de la peine, moi aussi. On regrette toujours un vieux compagnon, malgré tout. Bien que celui-là fût capable des pires malices qui se puissent imaginer et qu'il m'ait joué plus d'un vilain tour, il avait à peine 27 ans, il me semble. C'est juste votre âge. Qui aurait cru que vous étiez né la même année ? J'avoue que ce coup fut plus dur pour moi que m'avait été celui de la mort de Madame Linton.
d'anciens souvenirs assiégeaient mon cœur. Je m'assis sous le porche. Je pleurais comme pour un parent. Et je priai le docteur de se faire introduire auprès de mon maître par un autre serviteur. Je ne pouvais m'empêcher de ressasser cette question. Sa mort a-t-elle été naturelle? Quoi que je fisse, cette idée me harcelait. J'étais si obsédé que je résolus de demander la permission d'aller à Hurlevent pour aider à remplir les derniers devoirs envers le défunt. Monsieur Linton n'y consentit qu'avec beaucoup de difficultés. Mais je plaidais éloquemment l'abandon où le corps de son beau-frère devait se trouver. Je fis valoir que mon ancien maître et frère de lait avait autant que lui droit à mes services. De plus, je lui rappelai que le petit Ayrton était le neveu de sa femme, qu'en l'absence de parents plus proches, il devait lui servir de tuteur. Qu'il fallait qu'il s'enquît de l'état de sa succession et qu'il examinât les affaires de son beau-frère. Il était incapable de s'occuper de tout cela à ce moment-là, mais il me chargea d'en parler à son homme d'affaires. Enfin, il me permit de partir. Son homme d'affaires était également celui d'Earnshaw. Je passai au village et le priai de m'accompagner. Il secoua la tête et conseilla de laisser faire Heathcliff, affirmant que si la vérité était connue, on découvrirait que Ayrton n'était guère plus qu'un mendiant. Son père est mort endetté, ajouta-t-il. Toute la propriété est hypothéquée et la seule chance qui reste à l'héritier naturel est de trouver une occasion d'éveiller quelque intérêt dans le cœur de son créancier, afin que celui-ci soit amené à le ménager. Quand je parvins à Hurlevent, j'expliquai que j'étais venu pour veiller à ce que tout se passât décemment. Joseph, qui avait l'air d'avoir assez de chagrin, exprima sa satisfaction de ma présence. Monsieur Heathcliff dit qu'il ne voyait pas qu'on eût besoin de moi, mais que je pouvais rester et régler les dispositions des obsèques si je voulais. En bonne justice, observa-t-il, le corps de ce fou devrait être inhumé à la croisée des routes, sans cérémonie d'aucune sorte. Il m'est arrivé de le quitter pendant 10 minutes hier après-midi. Il en a profité pour verrouiller les deux portes de la salle afin de m'empêcher d'entrer et il a passé la nuit à s'enivrer à mort de propos délibérés. Nous avons fait irruption ce matin en l'entendant ronfler comme un cheval. Il était là, étendu sur le banc. On aurait pu l'écorcher et le scalper sans le réveiller. J'ai envoyé chercher Kenneth qui est venu, mais avant que la brute fût changée en charogne, il était mort, froid et raide. Ainsi vous conviendrez qu'il n'y avait pas lieu de faire beaucoup d'histoires à son sujet. Le vieux domestique confirma ses dires, mais grommela « J'aurions mieux aimé qu'il soit été cueillir le docteur lui-même, j'aurions soigné le maître mieux que lui, et il n'était point mort quand je suis parti, mais point du tout !»
D'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché 2 ans de ta vie, 2 ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant, toi, tu as tout donné, et tout le meilleur de toi-même, à moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Toi tu essayais de comprendre ce que mes chansons voulaient dire. Agenouillée dans l'existence, tu m'encourageais à écrire. Mais moi je reste hermétique, indifférent à tes envies, à mettre sa vie en musique. On en oublie parfois de vivre. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant. Mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Tout est de ma faute en ce jour et je reconnais mes erreurs. Indifférent à tant d'amour, j'accuse mes imbuvables humeurs. Mais toi ne te retourne pas, va droit sur ton nouveau chemin. Je n'ai jamais aimé que moi, et je reste sans lendemain. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Les Hauts de Hurlevent, suite. J'insistais pour que les funérailles fussent convenables. Monsieur Heathcliff me dit que je pouvais agir à ma guise. Cependant, il me pria de ne pas oublier qu'en toute cette affaire, c'était de sa poche que sortait l'argent. Son attitude resta froide, indifférente, n'indiquant ni joie ni chagrin. Si l'on pouvait y lire quelque chose, c'était la cruelle satisfaction d'avoir réussi une besogne difficile. Je remarquai cependant une fois sur sa figure une expression qui ressemblait à de l'exultation. Ce fut à l'instant que le cercueil sortit de la maison. Il eut l'hypocrisie de se mettre en deuil. Avant de suivre le convoi avec Ayrton, il fit monter sur la table le malheureux enfant et murmura avec une singulière jouissance. « Maintenant, mon petit gars, tu es à moi. Et nous verrons bien si un arbre ne pousse pas aussi tordu qu'un autre, quand le même vent le courbe. » Le naïf petit être écouta ces paroles avec plaisir. Il jouait avec les moustaches de Heathcliff et lui tapotait la joue. Mais moi, je compris ce qu'il voulait dire et j'observai sèchement. « Cet enfant doit retourner avec moi, à la grange, monsieur. Il n'y a rien au monde qui vous appartienne moins que lui. » « Linton l'a-t-il dit ? » demanda-t-il. « Sans doute, il m'a ordonné de le ramener, » répondis-je. « Bien, » dit le coquin. « Nous ne discuterons pas de cette question pour le moment, mais j'ai envie de m'essayer à élever un enfant. Par conséquent, vous déclarerez à votre maître que s'il cherche à m'enlever celui-ci, je me verrai obligé de le remplacer par le mien. Je ne m'engage pas à laisser partir Ayrton sans contestation, mais je vous certifie que je ferai venir l'autre. N'oubliez pas de le lui dire. » Cette menace suffisait à nous lier les mains. J'en fis part en revenant à Edgar Linton, qui s'étant peu intéressé à la question dès le début ne parla plus d'intervenir. Je ne crois d'ailleurs pas qu'il eût pu le faire utilement si l'on n'avait jamais eu la volonté. L'hôte était maintenant le maître de Hurlevent. Sa possession était solide et il le prouva à Lothornay, qui à son tour le prouva à M. Linton, qu'Earnshaw avait hypothéqué jusqu'à son dernier mètre de terrain pour avoir de quoi subvenir à sa passion du jeu. Et lui, Heathcliff, était le prêteur. C'est ainsi que Ayrton, qui devrait être aujourd'hui le premier propriétaire du pays, a été réduit à un état de complète dépendance de l'ennemi invétéré de son père. Et qu'il vit dans sa propre maison comme un domestique. Sauf qu'il n'a même pas l'avantage de toucher des gages, tout à fait incapable de se faire rendre droit parce qu'il est sans aucun ami et qu'il ignore le tort dont il est victime. Les 12 années qui suivirent cette lugubre période, continua Madame Dean, furent les plus heureuses de ma vie. Mes plus grands soucis durant ce laps de temps furent causés par les légères indispositions que notre petite Catherine dut subir, comme tous les enfants, riches ou pauvres. Du reste, après les premiers 6 mois, elle poussa comme un jeune mélèze et commença de marcher et de parler à sa manière avant que la bruyère eût fleuri pour la seconde fois sur la tombe de Madame Linton. C'était la créature la plus séduisante
qui eût jamais apporté un rayon de soleil dans une maison désolée. Une réelle beauté de figure avec les beaux yeux noirs des Zirnshow, mais le teint clair, les traits délicats, les cheveux dorés et bouclés d'Ellington. Son humeur était vive, mais sans rudesse, et tempérée par un cœur sensible et ardent à l'excès dans ses affections. Cette aptitude à se donner tout entière me rappelait sa mère. Elle ne lui ressemblait pourtant pas, car elle savait être douce comme une colombe. Elle avait une voix caressante et une expression pensive. Sa colère n'était jamais furieuse, son amour jamais violent, mais profond et tendre. Néanmoins, il faut le reconnaître, elle avait des défauts qui gâtaient ses dons, une tendance à être impertinente, par exemple, et l'entêtement qu'acquièrent infailliblement les enfants gâtés, que leur caractère soit bon ou mauvais. S'il arrivait qu'un domestique fît quelque chose qui lui déplût, c'était toujours « je le dirai à papa ». Et si son père la réprimandait, fût-ce simplement du regard, on aurait cru que c'était pour elle une affaire à lui briser le cœur. Je ne crois pas qu'il lui ait jamais adressé une parole dure. Il s'était chargé entièrement de son éducation et il y trouvait un amusement. Par bonheur, la curiosité et une intelligence vive faisaient d'elle une bonne élève. Elle apprenait vite et avec ardeur, et elle fit honneur à son maître. Jusqu'à l'âge de 13 ans, elle n'était pas une fois sortie seule de l'enceinte du parc. En de rares occasions, M. Linton l'emmenait avec lui à un mille ou à peu près au dehors. Mais il ne la confiait jamais à personne d'autre. Le nom de Gimmerton ne représentait rien à son esprit. La chapelle était, à l'exception de sa propre demeure, le seul bâtiment dont elle eût approché et où elle fut entrée. Les Hauts de Hurlevent et M. Heathcliff n'existaient pas pour elle. Elle vivait parfaitement recluse et en apparence parfaitement satisfaite. Parfois, cependant, quand elle regardait la campagne par la fenêtre de sa chambre, elle demandait « Hélène, combien de temps faudra-t-il encore avant que je puisse aller au sommet de ces collines? Que peut-il bien y avoir de l'autre côté? Est-ce la mer ?»« Non, Miss Ketty, ce sont encore des collines toutes pareilles à celles-ci. » « Et à quoi ressemblent ces rochers dorés quand on est à leurs pieds ?» demanda-t-elle une fois. La chute abrupte des rochers de Penistone attirait particulièrement son attention. Surtout quand le soleil couchant brillait sur eux et sur les sommets environnants et que tout le reste du paysage était dans l'ombre. Je lui expliquai que c'était de simples masses de pierre dont les interstices contenaient à peine assez de terre pour nourrir un arbre rabougri. Et pourquoi sont-ils encore clairs si longtemps après qu'il fait sombre ici? Parce qu'ils sont à une bien plus grande altitude que nous. Vous ne pourriez pas y grimper tant ils sont hauts et escarpés. En hiver, la gelée apparaît toujours là avant d'arriver à nous, et au cœur de l'été, j'ai trouvé de la neige dans ce trou noir, sur la face nord-est. « Oh, vous y avez été ? » s'écria-t-elle joyeusement. « Je pourrais donc y aller aussi, quand je serai une femme. Papa y a-t-il été, Hélène ?»« Papa vous dirait, miss, me hâtais-je de répondre, que ces rochers ne valent guère la peine d'une visite. Les landes où vous vous promenez avec lui sont beaucoup plus belles. » Et le parc de Thrushcross Grange est le plus bel endroit du monde. Mais je connais le parc, et je ne connais pas ces rochers, murmura-t-elle, en se parlant à soi-même. Et j'aimerais tant à regarder tout autour de moi du sommet de la plus haute pointe. Mon petit poney Minnie m'y mènera un jour. Une des servantes, ayant parlé devant elle de la grotte des fées, elle eut la tête toute bouleversée du désir de mettre à exécution ce projet. Elle ne cessait d'en importuner M. Linton, si bien qu'il promit qu'elle ferait cette excursion quand elle serait plus âgée.
mais Miss Catherine mesurait son âge par mois. Et la question « Maintenant, suis-je assez âgé pour aller au rocher de Pennystone ?» revenait constamment sur ses lèvres. Dans un de ses lacets, la route qui y conduisait passait tout près de Hurlevent. Edgar n'avait pas le courage d'aller par là. De sorte qu'elle recevait toujours la réponse « Pas encore, ma chérie, pas encore. » Je vous ai dit que Madame Heathcliff avait vécu un peu plus de 12 ans après avoir quitté son mari. On était d'une constitution délicate dans sa famille. Ni elle, ni Edgar n'avaient cette santé robuste qu'on rencontre en général dans ces parages-ci. Je ne sais pas exactement ce que fut sa dernière maladie. Je conjecture qu'ils moururent tous deux de la même manière, d'une sorte de fièvre, lente à son début, mais incurable, et minant rapidement leur existence vers la fin. Elle écrivit à son frère pour l'informer de l'issue probable du mal dont elle souffrait depuis 4 mois, et le supplier de venir la voir, si cela lui était possible. Car elle avait bien des choses à régler. Elle désirait lui faire ses adieux et laisser Linton en sûreté entre ses mains. Son espoir était que Linton pourrait rester avec lui comme il était resté avec elle. Son père, elle aimait à s'en persuader, ne tenait pas à assumer le fardeau de son entretien et de son éducation. Mon maître n'hésita pas un moment à satisfaire à cette requête. Quelle que fût en temps ordinaire sa répugnance à quitter sa maison, il se hâta de répondre à cet appel. Il recommanda Catherine à ma vigilance toute spéciale pendant la durée de son absence avec des ordres réitérés pour qu'elle ne dépassât point les portes du parc même sous mon escorte. Il ne lui venait pas à l'esprit qu'elle pût sortir sans être accompagnée. Il fut absent 3 semaines. Pendant 1 ou 2 jours, la jeune personne confiée à ma garde resta assise dans un coin de la bibliothèque, trop triste pour lire ou pour jouer. Dans cet état de tranquillité, elle ne me causa guère de soucis. Mais ensuite vint une période de lassitude impatiente et turbulente. Comme j'étais trop occupé et désormais trop âgé pour courir par monts et par veaux afin de l'amuser, je m'avisai d'une méthode qui lui permit de se distraire elle-même. Je pris l'habitude de l'envoyer faire le tour de la propriété, tantôt à pied, tantôt sur son poney, et à son retour je me prêtais complaisamment au récit de toutes ses aventures réelles ou imaginaires. Nous étions au début de l'été. Elle prit un tel goût à ses excursions solitaires qu'il lui arrivait souvent de rester dehors depuis le déjeuner jusqu'à l'heure du thé. Puis, elle passait les soirées à raconter ses histoires fantaisistes. Je ne craignais pas qu'elle franchît les limites imposées parce que les portes étaient ordinairement fermées. En outre, je pensais qu'elle ne se serait guère risquée seule à l'extérieur, même si elles eussent été grandes ouvertes. Malheureusement, l'événement prouva que ma confiance était mal placée. Un matin, à 8 heures, Catherine vint me trouver et me dit que ce jour-là, elle était un marchand arabe qui allait traverser le désert avec sa caravane et qu'il fallait que je lui donnasse abondance de provisions pour elle et ses bêtes. Un cheval et 3 chameaux, ces derniers représentés par un grand chien courant et 2 chiens d'arrêt. Je rassemblai une bonne quantité de friandises que je plaçai dans un panier attaché à l'un des côtés de sa selle. Elle sauta à cheval, gai comme un pinson, protégée du soleil de juillet par son chapeau à grand bord et un voile de gaze, et partit au trot avec un rire joyeux, se moquant de mes prudents conseils de ne pas galoper et de rentrer de bonne heure. La vilaine petite créature ne parut pas à l'heure du thé. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, que nous terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.